RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
L'after jusqu'à minuit, comme tous les soirs, vous le savez, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten, mais également avec Karim Infidèle. Je reviens dans quelques instants, Karim, pour que tu nous donnes ta version du match, ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu. On parlera notamment d'Ousmane Dembélé dans quelques instants. Juste pour moi, le temps de vous rappeler le score 3-0 pour le FC Barcelone face à Chelsea, dernier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Qualification également un peu plus tôt, sous les yeux de Jérôme Roten du Bayern Munich, qui s'est imposé 3 buts à 1 face à Beşiktaş. Karim, tu voulais ajouter quelque chose sur ce match ?
J'écoutais Jérôme qui parlait de Busquets et de Rakitic, mais est-ce que vous pensez pas, les gars, j'ai une question vraiment importante, est-ce que c'est le vainqueur de la Ligue des Champions cette année, ça va pas jouer avec le banc, en fait ? Quand tu vois le banc de City, c'est exceptionnel, Jérôme, il est commande tous les week-ends avec... tu sors Agüero, tu fais rentrer Jesus, tu sors Sané, tu fais rentrer Silva, tu sors Gundogan, tu fais rentrer... tu vois, tu sors De Bruyne, tu fais rentrer Gundogan, de Bayern, ils ont un banc exceptionnel, le Real... C'est un bon problème, ça va coûter cher avec la fatigue. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, en fait.
Ouais, mais le Barça, ils ont déjà fait ça, de gagner la Ligue des Champions à 14 ou 15. C'est pas quelque chose. Et le Real, si tu vas par là, ils sont pareil, 14-15 aussi. Il y a des choses qu'on sait sur Real et Barça. C'est pas pour rien que ce sont les deux équipes qui dominent le football mondial depuis 10 ans maintenant, à tour de rôle. On peut dire, ils ont laissé en route 2013, ouais. 2012-2013 à Chelsea au Bayern, mais sinon, bon, tu vois, grosso modo, c'est ces deux équipes-là qui se partagent le foot depuis 2009 maintenant. Ces deux équipes ont quand même des certitudes. Tu sais, grosso modo, quand elles sont dans une bonne année, quand elles sont un peu plus prenables, tu arrives à les envisager assez bien. City, moi j'adore. Je suis impressionné depuis le début de la saison. C'est fantastique. Normalement, ça doit être mieux que l'année dernière. Il y a grosse progression, des joueurs qui se sont un peu aguerris. Mais j'ai quand même envie de te dire, bon là ils ont eu un huitième qui était méga facile pour eux, tu vois. J'ai envie d'attendre le quart. Je veux voir, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même toujours un niveau différent. Je veux voir en quart contre qui vont tomber. Je veux les voir dans une grosse partie, bah justement contre Real, Bayern ou Barcelone, tu vois, pour vraiment être sûr que ils sont aussi beaux que je le pense. Tu vois, ça c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc je continue de penser que même si tu penses qu'il peut y avoir des ouvertures, regarde, la Juve l'a fait contre le Barça l'année dernière. Je les vois un peu mieux quand même, le Barça cette année, mais je continue de penser que les deux Espagnols ont plus l'habitude de ce genre de match-là encore. Donc toi qui es supporter du Barça, tu vois, je mettrais quand même une petite inquiétude de côté, quoi.
Merci beaucoup Karim. On te remercie et à bientôt évidemment.
Un dernier mot, Karim. Moi, je dis jamais ce genre de truc-là, hein, mais Real et Barça, ça commence à dater la dernière fois qu'il y a eu une décision contraire au niveau des arbitres. Hein.
Putain, ouais, parce que celle-là, le penalty, il est quand même flagrant.
Non, mais c'est à tous les matchs, quoi, en Ligue des Champions. Les deux clubs, là, c'est des faits de jeu, mais c'est souvent sur eux, hein, quand même. Hein. Les deux, là.
C'est souvent pour eux, quoi, surtout.
Ça peut changer véritablement la phase de cette rencontre. C'est difficile évidemment.
Non, j'en sais rien. Moi, j'aime pas parler de ça. Mais ces deux clubs-là, c'est vrai que
non,
c'est.
Non, mais Daniel le disait.
C'est quand même souvent leur faveur, quoi.
Et c'est vrai que ça tourne, ce fait de jeu, ce penalty qui était quand même flagrant. Il reste une demi-heure de jeu. Tu reviens à 2-1, sachant que Chelsea était quand même les contrariés au niveau de la façon de jouer. Ils étaient bien dans leur match, Chelsea. Ils avaient des possibilités de changement aussi
à
avec
Conte. Je veux le voir le 2-1 à
exactement.
Ce moment-là, moi.
Parce qu'à l'arrivée, Barcelone très cohérent, très discipliné et tout ça, mais avec la fatigue
avec
un
Messi hors norme, c'est lui qui leur
c'est ça.
Le match,
C'est ça, c'est que tu remplaces d'un moment tu fais rentrer Paulinho qui est pas un joueur de côté de toute façon, donc tu sors Dembélé, tu sors Iniesta. Oui, c'est des mecs sur les côtés qui peuvent dynamiser quand ils ont du peps, bien sûr qu'ils peuvent apporter devant offensivement, servir Messi, servir Suarez. Mais quand tu mets des joueurs comme Paulinho, c'est pas un joueur de côté. Donc, Chelsea était encore aurait pu être bien dans le match et pourquoi pas créer une sensation. Mais bon, après, attention, quand t'as un joueur comme Messi qui est hors norme, ça masque quand même pas mal de défauts.
Vous pouvez aller sur notre compte Twitter, on vous pose cette question pour vous essayer de juger la performance de Dembélé. A-t-il vraiment réussi son match? Vous pouvez répondre et je donnerai le sondage dans quelques instants.
Dembélé, il a mis un but extraordinaire et le reste du temps, il a beaucoup bossé.
Voilà,
il a beaucoup bossé sur le côté pour son équipe.
On en parlera dans quelques instants, mais je vais accueillir les drôles de dames, Fred Hermel et Philippe Auclair. Bonsoir messieurs.
Hola chicos.
Alors, je vais vous donner la main parce que c'est vrai que c'est aussi notre débat. Il y a ce premier but dès les premières minutes où c'est vrai que Chelsea est très bas. Il y a le deuxième but sur une erreur de Fabregas. Il y a le pénalty qui n'est pas sifflé. Le Barça était-il vraiment au-dessus? Je pose la question d'abord à Philippe Auclair.
Il était au-dessus, il a gagné 3-0. Quand tu as Lionel Messi qui, on le dit, on le répète, est dans la forme de sa vie. Et je continue de penser que le triplé qu'il met pour l'Argentine, qui les qualifie pour la Coupe du Monde, a changé quelque chose dans ce joueur. L'a fait entrer dans une catégorie.
On aurait quand même aimé voir Chelsea revenir à 2-1 pour voir ce que ça donnait un peu.
Oui, mais absolument. Mais tu sais, d'un certain côté, et c'est une chose d'ailleurs que disait Rio Ferdinand à la fin de cette rencontre, je pense que aucun supporter de Chelsea n'aura quelques regrets que ce soit. Parce qu'ils ont fait leur match,
ouais,
ils ont été courageux.
Ils vont quand même avoir un petit regret sur le péno. Hein.
Ils auront des regrets sur le pénalty non accordé, qui était un pénalty, tout le monde le sait. Ils auront des regrets sur le fait qu'ils ont quand même tapé quatre
ils
fois
quand
le bois.
C'est un bon match. Hein.
Super match.
Après,
ils ont montré du jeu.
Après, il faudrait reparler de ce début de rencontre. On a bien compris ce que veut faire Chelsea à ce moment-là. Il y a une ligne de 5,
ils veulent
une ligne
pas encaisser un but sur une erreur de Thibaut Courtois. C'est surtout ça qu'ils veulent.
Mais c'est le PSG la saison dernière.
C'est exactement la même chose. Même quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je revois le match, le truc, et moi je vois le Barça, je vois tous les matchs du Barça.
Alors, le problème,
Chelsea a été 10 milieux au-dessus du PSG l'année dernière.
Non, mais dans l'attitude, des trois premières minutes. Trois premières minutes, exactement, j'ai dit, ils vont s'en, mais comment le Barça, je vois tellement, dès que tu joues 6 bas contre le Barça, t'es mort. Voilà. Mais moi, l'impression que j'ai eue, et j'insiste là-dessus, je le dis à mi-temps,
mais
la meilleure chose qu'il y a eu pour le match.
C'est ça le truc. Le problème, c'est que t'es pas, alors, le truc, c'est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils avaient prévu de jouer comme ça longtemps, auquel cas, grosso modo, ça peut les emmerder, et après, ils ne se décomplexent pas au point de faire le bon match qu'on a vu ensuite. Il y a le fait de vouloir démarrer comme ça, et t'es puni très très vite, parce que ton gardien te fait une boulette et parce que t'as un joueur qui est complètement fou et qui est capable de mettre un ballon où il a envie de le mettre. C'est ça l'histoire. C'est Chelsea se trompe dans son approche. Après, ce but là fait qu'il se réveille et qu'il se mette à faire un très bon match. Mais est-ce que, imaginons qu'ils le mettent pas comme ça, le but aussi vite que ça, mais si Chelsea, ils ont l'intention de faire ça pendant combien de temps, de rester derrière? Je suis pas sûr que ce soit payant pour eux s'ils continuent longtemps de jouer comme ça.
C'était finalement une bonne nouvelle pour le match qu'il y ait eu ce but très rapide, parce que automatiquement Chelsea s'est bien joué. On a vu un super match. Moi,
on a vu un très bon match, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aurait aimé le voir jusqu'au bout avec le 1-2. Moi, j'aurais aimé que Chelsea.
Non, mais Daniel, toi qui parles des arbitres, ça me fait bizarre. Tu vois, parce que je t'écoute, même quand je suis pas à l'antenne et quand je vois tes affrontements.
Il y a des choses qui.
Donc, le foot espagnol domine absolument l'Europe depuis 10 ans. Et c'est à cause des arbitres. Ok, non, mais je vais pas rentrer dans cette discussion-là parce que
il a pas dit ça, Fred. Non,
parce que Daniel ne veut jamais parler des arbitres. Ça, oui. Il critique Jean-Michel Aulas quand il se plaint des arbitres. Donc,
Fred, je l'assume complètement. Tu sais bien, je n'en parle jamais. Maintenant, au bout d'un moment, tu peux aussi constater. Je peux le faire une fois tous les 5 ans. Dire quand l'histoire commence en 2009 dans le fameux Chelsea-Barça justement.
Ouf. Qui est une honte ce match, bien sûr.
Il y a quand même. Non mais voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment tu constates que l'effet de jeu c'est jamais contre eux, c'est tout.
Et tu ne dis pas. Daniel, que le Barça s'est qualifié grâce à ça.
Tu peux le constater, le truc, c'est tout. Tu dis juste que l'effet de jeu. Après, moi, je vais pas plus loin que ça. Une fois que j'ai fait ce constat, qu'est-ce que tu dis d'autre?
Bah oui, bah donc parfait. Bon, on passe à autre chose. On va parler du match qui était, j'insiste, un très bon match de football.
Bien sûr.
Et voilà, après, il y a des conclusions à tirer là-dessus. Je pense sincèrement que.
Si jamais tu vois un match de Coupe d'Europe avec Real et Barça défait de jeu contraire, note-le sur un cahier. Parce que, voilà.
Pour passer à autre chose, Fred, pour passer à autre chose, est-ce que tu as vu le Barça que tu vois en Liga?
Ouais. Moins brillant
quand même.
Du temps de Guardiola. Mais plus sûr de lui, plus organisé, qui maintenant il a été décomplexé par Luis Enrique surtout, dans le fait que jouer en contre c'est plus sale. Avant c'était sale, c'est Messi, c'est Xavi qui disait ça. Aujourd'hui le Barça estime que il peut essayer de reculer un petit peu, il peut jouer en contre, il peut être plus complet, il peut marquer des buts sur des coups de pied arrêtés, etc. Ce qui n'était pas bien avant, parce qu'il y avait une sorte de je termine la phrase, de jusqu'au boutisme dans le guardiolisme, qui faisait que c'était pas bien. C'est un Barça qui a d'autres alternatives, qui est moins brillant, mais beaucoup plus solide. Enfin, quand
est-ce
tu
que
vois
tu
ce
trouves
soir,
que Messi est plus libre qu'avant, oui. déjà qu'il l'était beaucoup, mais je le trouve encore plus libre, en fait.
Oui, et je vais te dire, c'est grâce à la blessure de Dembélé. Ça peut paraître dingue ce que je te dis, mais le changement, il commence la saison en 4-3-3 avec Dembélé, qui supposait remplacer Neymar, et il se trouve que Valverde, perdant Dembélé à cause de sa blessure, s'invente un 4-4-1-1 avec Messi derrière Luis Suarez qui fait un boulot. En soir, le match de Suarez, sincèrement, enfin, c'est fabuleux ce qu'il fait, même s'il marque pas. Enfin, je veux dire, tous les mouvements qu'il fait sont intelligents. Voilà, et Messi est très libre derrière, et je l'ai dit plusieurs fois, Messi est un homme qui a réglé ses problèmes physiques grâce à une meilleure alimentation. C'est quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui dans le combat perpétuel. Oui, bien sûr. Bah, tout le monde le sait. Il mangeait hyper mal. Il buvait des sodas et tout. C'était l'un des grands drames. Mais il vomissait. Il avait des problèmes de trucs. Bon, aujourd'hui, il a une vie très, très organisée à ce niveau-là. Il n'est plus dans le combat avec Ronaldo comme il y a un moment. Il y a plus ce stress-là. Et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans une pleine maturité footballistique et personnelle qui fait qu'il n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Que cette saison, je n'arrête pas de le dire. Les gens me critiquent pour ça, mais ça se voit. Il y a une sorte de décontraction chez Messi. Ouais. Avant, il y avait parfois un peu de tension. Aujourd'hui, il y a une sorte de décontraction et de sérénité qui fait qu'il est imbattable aujourd'hui, quoi.
Mine de rien, quand on disait aussi tout à l'heure, ça fait 10 ans que ces deux clubs-là dominent le football mondial. C'est aussi les deux clubs qui ont les deux joueurs.
Mais c'est pas que ça.
Non, bien sûr que
c'est pas que ça. Tu vois le match.
C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, le nombre de fois où Cristiano Ronaldo et Messi ont finalement été en marge du collectif pour être les sauveurs, les génies de l'équipe.
Ouais, résumé à ça, c'est très injuste parce que quand tu vois le nombre, tu crois que Modric, tu crois que le Real sans Modric ce serait aussi fort?
Ils ont tous été plus intelligents grâce à ces mecs-là.
Non, mais après,
c'est quand même deux mecs comme on en a rarement vu dans l'histoire du foot.
Aujourd'hui, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Fred, quand tu me dis qu'il fait sa meilleure saison.
Non, j'ai pas dit qu'il faisait sa meilleure saison. J'ai dit qu'il a jamais été aussi fort.
Mais
c'est pas pareil.
Moi, j'ai trouvé il a toujours été fort de toute façon. Il aurait pas autant de ballons d'or.
Il a eu des saisons
il faut voir avec le style de l'équipe. Tu sais, quand t'as une équipe qui a beaucoup de possession de balles, ce qui était le cas, et ce qui est encore le cas, parce qu'ils aiment avoir le ballon, mais qui défend quand ils ont pas le ballon, ils acceptent de reculer. Avant, ils acceptaient pas de reculer. Les équipes avec Guardiola, c'était tout de suite beaucoup de pression sur le porteur, ils récupéraient le ballon haut et souvent t'avais des attaques défense parce que les équipes adverses, elles avaient pas les moyens d'aller inquiéter Barcelone. Et au pire, s'ils y arrivaient, ils défendaient à 3 ou à 4 Barcelone et puis récupéraient le ballon par la suite. Donc quand tu fonctionnes qu'en attaque placée, bien sûr que même le Lionel Messi, par moment, il avait du mal à trouver des solutions et pourtant il a réussi, hein, parce que les stats sont tournées. Aujourd'hui, quand tu vois le style de l'équipe, quand tu vois aujourd'hui la deuxième mi-temps de Barcelone, par exemple, qui accepte de subir
qui
par
gère.
Moment, qui accepte.
Chelsea fait aussi un gros match.
Qui accepte de reculer plus bas et qui fonctionne avec un Lionel Messi qui est complètement libre, qui a pas trop de repli défensif, qui garde du jeu offensivement. Mais quand un Lionel Messi, t'arrives à le trouver à 50 mètres du but adverse, il prend la vitesse. Là, il est dans son élément, à l'image de son but. Son but, c'est une attaque rapide. Suarez fait un super boulot. Il décale.
Quand il s'écarte sur, bien sûr.
Il décale et là, en deux touches, il enrhume les trois défenseurs parce qu'il arrive à pleine vitesse.
Et 100e réalisation donc de Lionel Messi en Ligue des Champions. Parlons un petit peu de Chelsea. On a beaucoup parlé de Lionel Messi.
Tu te rends compte, on parle quand même de mecs qui sont
123 matchs en Ligue des Champions, 100 buts pour Lionel Messi. Et j'ai une autre stat à vous donner. Sachez qu'il vient d'inscrire ce soir, il bat tout le temps les records, son but le plus rapide en Ligue des Champions, 2 secondes 08
en plus,
pour Lionel Messi.
Même 2 minutes 08.
2 minutes 08.
J'ai dit quoi?
2 secondes 08.
2 minutes, évidemment.
2 secondes 08, c'est moi, ça.
Parce qu'en fait, j'ai trouvé que le match allait super vite. Peut-être que je l'ai regardé en accéléré. Merci en tout cas pour le rectificatif, messieurs. Nourdi Nourdine nous appelle.
Au... Passé, hein.
Nourdine enfin, ça, nous appelle au 32-16, supporter de Chelsea. Salut Nourdine.
Salut Nourdine.
Salut Nourdine.
Oui, allô, on t'entend bien. Pour toi, Chelsea sort la tête haute ce soir.
Exactement. Personnellement, j'ai été très très fier de mon équipe. Conte a mis en place un système tactique vraiment très intéressant. On a dominé le Barça au Camp Nou. Personnellement, j'étais très fier, comme je l'ai dit, on sort la tête haute. On se fait punir par le meilleur joueur de l'histoire sur 4 erreurs individuelles sur les deux matchs. Ça fait 4 buts. Mmh. Et voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est... Non, mais ça, c'est, t'as raison, Nourdine, de mettre en avant, parce que sur une double confrontation, surtout quand tu joues des équipes comme Barcelone, ces équipes-là, tu peux pas faire autant d'erreurs. Le match aller, t'es fautif, mauvaise relance, mais s'il est là, bam, bam, bam,
et
ça enchaîne.
Vous me dites que Barça a fait Chelsea a fait un super match.
Non, mais attention, mais Chelsea a été cohérent. Et moi aussi, moi, j'attendais, et ça m'a fait peur, et là, on en a parlé à la mi-temps avec Philippe et Fred, c'est que ça m'a fait peur le début de match en disant, tiens, ils vont refuser le jeu comme beaucoup d'équipes à Barcelone, et là, on va se faire chier. Parce que ça va être une attaque défense, et tu peux pas fonctionner comme ça au New Camp. Et que ce but pris au bout de 2 minutes de jeu, et ben ils sont sortis. Et là, oui, on a vu un Chelsea intéressant. Moi, le seul regret que j'ai pour Chelsea, c'est pour ça que je suis en désaccord avec Ferdinand quand il dit, ouais, on n'a pas de regret. Le seul regret, c'est que Eden Hazard n'ait pas été à la hauteur de Willian.
Ouais, bien sûr.
Oui, vas-y, Nourdine.
Il était pas là, Philippe. Quand on a parlé d'Eden Hazard tout à l'heure.
On va en parler. Vas-y, Nourdine. Fini.
En fait, j'aimerais parler du match de Kanté. Pour moi, il a été vraiment phénoménal. Willian m'a vraiment impressionné. J'ai jamais vu Kanté aussi fort, vraiment, c'est incroyable. Après aussi, voir Chelsea avec autant de possession que nous, vraiment, moi, ça m'a impressionné. Et je pense que ce serait une erreur de laisser Kanté partir. Par contre, Courtois, Rudiger, Moses, j'aimerais vraiment, vraiment ne plus les revoir dans mon club.
Lequel tu dis?
Moses, Courtois et Rudiger. C'est vrai que Courtois pas forcément flambé ce soir.
Non, c'est un bon gardien. Courtois, hein,
parce que... Tous les 6 mois, il veut partir, Courtois. Tous les 6 mois, il veut une revalorisation.
Il
veut retourner en Espagne. Oui,
pour le Real, c'est foutu. Hein. Ah ouais. Après le match de soir, là.
Non, mais c'est pas possible. Ah ouais. Les buts comme ça, c'est impossible en Ligue des Champions. On se fait punir comme ça, c'est vraiment, vraiment frustrant parce que d'habitude, c'est nous qui punissons de cette façon, mais.
Merci beaucoup, Nourdine.
Qui se fasse Philippe... un peu les jambes, non?
Je suis en accord avec toi. Rudiger, je n'en peux plus. J'en parlais avec Jérôme à l'habitant. Ouais. Moi, je n'en peux plus. Il me fait le même effet que Granit Xhaka à Arsenal. C'est des joueurs, je ne comprends absolument pas pourquoi ils sont dans le 11 de départ. Techniquement, c'est catastrophique. C'est un joueur de Détroit qui a des grosses qualités physiques. On le sait. Chaque fois qu'il... Oh, mais attends, mais Rudiger, mais c'est catastrophique.
Moi, je suis monté de division 10 à division 9 avec lui sur FUT à l'époque. J'avais dans la défense. J'ai beaucoup d'affection pour ce mec-là.
Et c'est vrai qu'il était bon dans ce jeu. Mais sinon.
Non, parce que c'est à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'avais pris une équipe
mais,
à
l'époque. Mais c'est un coiffeur, quoi.
Non, et, moi, je trouvais bien. C'est comme ça que j'ai appris à le connaître. J'ai regardé en Allemagne. Après, il est allé à la Roma. Je voyais un potentiel c'est un peu trop pour lui peut-être effectivement.
Non mais on nous fait
Joachim
l'estime
en Allemagne attention.
Le football de sélection est très inférieur au football de club au niveau au point de vue du niveau donc c'est peut-être ceci explique peut-être ça.
Attends, je suis un peu dur. Il est bon là, je vois bien comme vous.
Non mais c'est vrai que
j'avais une petite affection.
Il y a quand même
mais je comprends ton affection.
Non mais là je passe la première fois la division que tu commences sur FUT, t'es content les mecs, tu les oublies pas. C'est comme à l'époque j'avais Trippier de Tottenham, personne ne le connaissait.
Kieran Trippier,
j'ai connu Kim Kjaerom comme ça.
Non mais Rudiger, quand tu le vois évoluer par les conneries de Daniel avec son fut là, et on s'en fout. quand tu le vois évoluer à la Roma, il faisait des bonnes choses. Moi, j'ai commenté le petit italien. Je veux dire qu'à la Roma, il a fait des bonnes saisons.
Sauf que
là, c'est son frère qui a été transféré, quoi. Ce que je veux dire.
Ou peut-être que le niveau monte aussi.
Ouais, le niveau monte. Peut-être que aussi par rapport au dispositif tactique de Conte avec ses trois défenseurs, il se retrouve en difficulté et qu'il y a la comparaison avec, et on en parlait à la mi-temps, Philippe, avec la défense de l'année dernière de Chelsea.
Absolument.
C'est le jour et la nuit. Cette défense, Cahill,
David Luiz, ne pas l'oublier.
David Luiz, qui était là avec Azpilicueta.
T'en avais presque oublié l'existence de David Luiz.
Non, mais ces trois-là, là, tu pouvais voyager tranquille l'année dernière. Cette année, je suis désolé, mais quand t'as Rudiger, alors Azpilicueta, le pauvre, il est un peu tout seul, mais Azpilicueta, je le vois plus faire ce qu'il faisait à merveille l'année dernière, Philippe, c'est-à-dire je récupère le ballon, il gagne tous ses duels en général, et après il avait la liberté avec le ballon de pouvoir monter parce qu'il y a des bons décalages faits par David Luiz qui jouait dans l'axe.
La surface d'ailleurs.
Oui, mais et qu'est-ce qui fait la différence dans l'élaboration du jeu de Chelsea aujourd'hui? Quant à Christensen, l'année dernière c'était David Luiz. Alors David Luiz, on peut critiquer ses erreurs de placement, des erreurs.
Mais le ballon, il est sort.
Mais attends, c'est un super joueur de foot.
Ouais, c'est
pour
vrai,
ça que
vrai,
des fois,
vrai.
Il est au milieu. Et il arrivait à faire les décalages, soit la sur Cahill, sur le côté gauche, mais surtout sur Azpilicueta, qui lui en profitait. Et Philippe, encore une fois, il va aller dans mon sens. C'est combien de passes décisives d'Azpilicueta l'année dernière? Il venait.
Absolument.
Il arrivait à venir faire le surnombre. Cette année, il peut pas le faire. Parce que Rudiger et Christensen, ils ont des pieds, mais attention, ça fait flipper, quoi.
Dans quelques instants, nous allons parler d'Eden Hazard. On voudrait avoir l'avis de Philippe Auclair dessus. Aussi, Paolo Conte, est-ce qu'il va être critiqué?
Antonio
Conte, pardonnez-moi.
C'est autre chose. Ouais,
c'est
bien aussi.
C'est
une jolie chanson.
Pardonnez-moi, j'ai aussi Paolo Conte, mais
c'est comme Daniel Leclerc, ça.
Oui, sur autre chose. C'est facile, les mecs, c'est très facile. Juste quelque chose.
Mais non, mais trop plein bisutage, mon chéri.
Attendez, mais t'as bien raison, mon Fred. Non, juste.
Mais mon cher Jean-Luc, y a pas de problème.
Non, parce que c'est Nourdine vraiment qui nous importe. Nourdine, est-ce que tu m'aimes bien la présentation de l'after, oui ou non?
Ah oui.
Oui, je l'amène bien. Mais j'aimerais bien ajouter quelque chose, s'il vous plaît.
Non, Nourdine, c'est pas possible. Ah, mais si tu aimes bien, je te file deux places pour le film Hostile.
Non, il a dit non.
C'est Christian Bale. Voilà, tu vas te régaler. Deux places de cinéma. Et puis Nourdine, si j'ai le temps, ce sera dans quelques instants. Mais là, il faut bien payer évidemment le salaire de Daniel Riolo. Et on revient dans quelques instants. Eden Hazard, Antonio Conte, évidemment. Pas Paolo, je sais pas qui a dit ça. On revient dans quelques instants dans l'after. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Afterfoot avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten et nos drôles de dames Philippe Auclair et Fred Hermel. Nous revenons ensemble sur la qualification du FC Barcelone 3-0 face à Chelsea, le Barça dernier qualifié pour les quarts de finale. Le Bayern s'est qualifié un petit peu plus tôt face au Beşiktaş grâce à leur victoire aux Bavarois 3-1 en Turquie. On continue de débriefer cette qualification du FC Barcelone et je voulais parler d'Eden Hazard. On en a parlé en début d'émission avec Daniel. Philippe, on voulait avoir ton sentiment sur Eden Hazard. Est-ce qu'il vit là ses derniers matchs avec les Blues?
Je ne pense pas qu'il vive nécessairement ses derniers matchs avec les Blues. Ce que j'ai vu ce soir, c'est après une entame de matchs qui était plutôt satisfaisante, voire même satisfaisante de sa part, il est devenu assez transparent. C'est pas lui. On attendait de lui qu'il soit peut-être le catalyseur. Ben c'est un peu dommage parce que du côté de Chelsea tu vois Willian qui fait énormément de choses magnifiques, qui est très entreprenant.
Ça n'a rien à voir au niveau caractère. Hein.
Non, et c'est l'une des choses que moi je voulais signaler, c'est ou souligner plutôt que signaler, c'est le fait que tu as eu quelques très grosses performances individuelles du côté de Chelsea. Je pense à N'Golo Kanté qui a été magnifique. Je pense qu'on sera tous d'accord que c'est tout simplement
Willian,
un joueur.
Willian numéro 1.
Willian, N'Golo. Marcos Alonso a fait beaucoup de bonnes choses, même s'il y a eu quelques décisions. Et il y a eu franchement, et il y a eu des très beaux mouvements collectifs, et dans ces mouvements collectifs, d'ailleurs, Eden Hazard a joué son rôle. Mais il n'a pas joué le premier rôle que tu aurais pu attendre d'un joueur de ce calibre-là, que tu t'imaginerais, au niveau du talent, de la technique, de tout ce que tu voudras, être dans le top 5 mondial, peut-être.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que t'arrives, on disait,
il y a un petit, il nous laisse un peu
sur ces années
toujours,
de Chelsea, sa réelle progression et son installation en tant que joueur star du football européen comme on l'attendait.
L'année du titre avec Mourinho, il est extraordinaire.
Non, mais attends, on parle quand même d'un très bon joueur de foot.
Il est fantastique.
On parle d'un
très bon
joueur de foot, quoi qu'il en soit. Hein, même ce soir,
il fait la différence.
Quand il prend le ballon une ou deux fois, on sent ce qu'il est capable de faire. Mais c'est pas constant, c'est des petits éclairs de temps en temps, c'est pas le...
Des fulgurances.
Voilà, ça reste globalement décevant sur un gros match, quand il faut aller à la bagarre, quand il faut afficher le caractère... C'est pas.
Jérôme émettait une piste tout à l'heure, Philippe, tu vas peut-être nous la confirmer, mais à un moment donné, vas-y. Il n'a pas eu forcément des coachs qui ont réussi à créer chez lui cette fibre.
Ça s'arrangera au Real l'année prochaine.
Mais c'est peut-être que ça lui servira. Mais est-ce que tu crois que
le Real, pas d'accord qu'il y a un grand risque qui vienne au Real?
Est-ce que tu crois que le Real
risque, c'est grosso modo Hazard, c'est compté en moi.
Ça fait un an qu'il décide. Non,
c'est compté en moi. C'est comme ça que je peux te depuis Chelsea.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
C'est grosso modo soit compté s'en va, soit c'est moi. Si compté reste,
il vient pas au Real l'été dernier parce qu'il se blesse et parce que le Real gagne la Ligue des Champions et que Zidane veut pas trop bouger. Zidane en est fou. Il en est fou. Il n'arrête pas de parler. Et là, je parle d'info direct.
Ah oui, mais dans ce cas-là, bien sûr qu'il
a envie
mais...
de venir. Et il a vraiment envie de venir. Et ce soir était un match très important pour Eden Hazard, parce que au Real, tout le monde était pour Chelsea ce soir et que les gens regardent.
Le Real est capable de lui forger le caractère, hein, bien entendu. C'est un football qui sera pour lui, il sera très à l'aise. Maintenant, il faudrait que dans sa tête, il ait réellement envie de grandir. Ça peut être un déclic, bien entendu, pour lui. Quelle place il aurait alors? Parce que Ronaldo continue à gauche, il y aura un 9. Et Hazard de l'autre côté,
Bale,
comment ça se passe?
Bale s'en va.
Ouais, mais Hazard, il joue plutôt côté gauche, il joue pas côté droit.
Oh, mais tu sais, Cristiano, aujourd'hui, son côté gauche, il l'oublie beaucoup, hein. Tu vois, donc,
Il y a de la place.
Mais il y a de la place. Mais vraiment, enfin, Zidane l'adore, c'est pas nouveau.
Nous tirons des plans sur la comète parce que tout va dépendre, à mon avis, du mondial. On sait que en particulier quand on parle du Real, le Real est un club qui, dans les années de Coupe du Monde, recrute parmi les joueurs qui ont brillé en Coupe du Monde.
Bien sûr.
Et Davas, James Rodriguez. Et si Eden fait un très grand mondial avec la Belgique, oui, mais c'est pas Zizou qui signe l'échec.
Non, donc mais Zidane est peut-être moins friand de ce genre de mode-là. Il est un peu plus posé. Et je pense quand même qu'au Real, il a son mot à dire.
J'aimerais qu'on accélère un petit peu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Eden Hazard. J'aimerais t'entendre, Philippe, sur Antonio Conte. Est-ce que, selon toi, il va être critiqué après cette performance et ce 3-0 à Barcelone?
Pas du tout. Pas du tout, et au contraire, je pense que son image en sortira grandi. Les supporters de Chelsea, à la différence des supporters de Manchester United, sont derrière leur entraîneur. Scandent Antonio à tous les matchs, ils l'adorent. Ils sont plutôt de son côté dans la lutte qu'il oppose aux dirigeants de Chelsea. Est-ce que ça veut dire qu'il va rester à Chelsea l'année prochaine? Pas du tout. Je suis, quant à moi, convaincu qu'il partira. Mais tu peux t'attendre à ce qu'Antonio Conte demain reçoive plutôt les louanges à la fois des fans et des médias pour ce que le spectacle que Chelsea nous a présenté. En fait, les deux meilleures performances de Chelsea qu'on ait vues en cette saison au niveau du football, ça peut paraître fou quand on voit les résultats, c'est le 2-1, la victoire à l'Atlético qui était magnifique, et c'est le match de ce soir où tu vois tout simplement c'est crâne, ça a de la gueule, ça prend des risques, je sais pas, ça a de la gueule, ça a de la classe. Antonio Conte, on s'en tire grandi.
Puisqu'on parle des entraîneurs, j'aimerais quand même devant vous faire une petite liste qui peut permettre de relativiser sur le rôle et ce que ça représente. Mais cette année, on a quand même Simeone, Conte, Mourinho, Ancelotti qui ont été en grande situation d'échec face à la Ligue des Champions. Eux qui sont dans la top liste des entraîneurs et des grands coachs dans le monde quand même. Ces entraîneurs-là ont connu de grosses difficultés. C'est à souligner. Ça relativisera pas ce qui s'est passé au PSG parce que je pense que l'entraîneur du PSG n'est pas encore dans cette catégorie-là. Mais
et puis les échecs sont pas comparables.
Pour Mourinho, c'est comparable. Pour Ancelotti, tu t'es fait quand même mettre un coup de chausson par le Bayern.
Ouais, non, mais Ancelotti, c'était un problème interne.
Mais bon, il s'est fait quand même footballeur. Oui, non, mais d'accord.
Non,
mais c'est un problème interne.
Ça se termine mal. Non, mais c'est un problème interne, évidemment. Mais
Conte, ça se termine mal, Daniel.
Emery, c'est également un problème interne. Il s'est pas fait.
Emery, pour parler d'Emery, pour comparer avec, par exemple, Conte ce soir, tu as le droit de perdre contre Real Madrid.
T'as
le droit de perdre contre Barcelone.
Bien sûr. Non, mais c'est
Non, après, c'est l'attitude, c'est ce qui dégage. Chelsea, t'as pas l'impression qu'ils ont été défaillants dans la façon de jouer, le caractère, le ceci,
mais
le
il
n'est
pas question de le mettre dans cette catégorie, mais de quand même s'interroger sur ce métier qui, parfois, en tout cas, la même année, t'as quatre noms de mecs qui sont dans la top liste des coachs, qui sont en souffrance.
Mais
vraiment.
Ça revient un petit peu à ce que tu disais hier et le débat que l'on avait dans l'after. Est-ce que José Mourinho n'est pas un petit peu cramé? Et ça va un petit peu dans cette veine, j'imagine.
Ouais, mais oui, après moi je dis pas Ancelotti cramé, Conte cramé, Simeone cramé. Non, pas du tout. Mourinho c'est un petit peu particulier. C'est que aujourd'hui ce métier change très souvent de contours. Les contextes, les joueurs, le métier devient de plus en plus difficile, je trouve, et de plus en plus intéressant à observer.
Non, mais je suis d'accord avec toi sur le métier d'entraîneur. C'est un métier de fou. Maintenant, encore une fois, pour faire la comparaison avec le Paris Saint-Germain et Emery, ce que je veux dire, tu compares des entraîneurs qui ont quand même montré. Alors Mourinho a déjà gagné avec des champions. Ancelotti l'a gagné. Simeone, il était pas loin de la gagner. Hein, plusieurs fois avec un effectif qui était pas forcément le meilleur.
Conte s'est toujours resté très distant.
Conte n'est jamais allé en quart de finale, je crois.
Non, mais Conte, c'est un jeune entraîneur. Conte, arrivé
d'Europe, pour
c'est un jeune entraîneur. Conte, par rapport à Ancelotti et
non, mais le passé, le CV n'est pas le même. Même si celui de déjà quand même, c'est vrai que trois Ligue Europa, c'est comme si t'es trois fois champion de D2. Je sais pas, si t'as envie de le dire comme ça.
Non,
j'en sais rien. Moi, je le dis pas comme ça, mais
moi, voilà. Non, mais arrête de me dire ça. À chaque fois, tu me mets ça sur le, tu me dis, Emery, tu critiques. Mais je critique pas Emery, moi, bien sûr. Respect, palmarès, trois Ligue Europa, il faut les gagner, les Ligue Europa.
Moi, je le critique. Bah ouais. Moi, je le critique, il va quitter le club et c'est logique.
Mais voilà. Oui,
il y a des erreurs sur Emery, hein, quelque part, à un moment donné.
Non, mais moi, je veux aller au-delà. Gestion de club, Ancelotti, ça a été ça. Ça a été finalement un problème en interne. Alors qu'un coach de sa dimension, mine de rien, un coach de sa dimension
non,
en 5 ans.
Bien sûr.
En 5 ans, attention quand même. Ancelotti, tout le monde sait que pour moi, c'est un des top 3. Quoi. PSG, méga mauvaise gestion. Ouais. Le club s'en sépare alors qu'ils ne doivent pas le faire. Mais mine de rien, ils se fait virer. Real, bon, on veut faire la place à Zidane.
Non, ils gagnent quand même. Bah non, il faut pas la place à Zidane puisqu'ils mettent.
Mais non, parce qu'ils prennent l'autre. Là.
Ils prennent Rafa Benitez.
Oui, non, mais Ancelotti, ça termine mal au Real.
Ben, ça termine mal parce qu'il gagne pas et Florentino commet l'erreur de le virer parce qu'il prend 4-0 à l'Atlético parce qu'il
J'ai pris un chemin de travers, mais c'est ce à quoi je voulais arriver. Il s'est fait virer aussi. Et Bayern, ça se passe mal aussi. Simeone, c'est cata cette année dans les poules de Ligue des Champs. Je veux dire, le métier devient de plus en plus difficile, même pour ses coachs d'âge, qui est un peu intouchable. Et Mourinho, on n'en parle même pas, où c'est un vrai problème. Chelsea, pareil, on veut le mettre dehors de Conte de Chelsea. C'est un métier compliqué.
Ok, on est en train de prendre des chemins un petit peu différents, mais moi je vais revenir sur la rencontre si vous voulez bien, parce que sur le compte de l'After, le compte Twitter, on vous a posé cette question. Ousmane Dembélé a-t-il réellement réussi son match? Et vous êtes pour l'instant 40% à nous dire oui. Qu'en penses-tu, Fred? Et puis après,
il
n'a
pas raté non plus. Il a fait un match où il a beaucoup travaillé et qu'il a.
Ah oui.
Et qu'il a.
À un moment,
est-ce que son but?
Mais
il
le tacle sur Marcos Alonso, au moment où Marcos Alonso arme sa frappe, c'est fantastique.
Le tacle, c'est beau. Le but, il est très beau. Mais est-ce qu'à un moment donné, ces deux actions, si vous voulez, ça cache pas un petit peu?
Non.
Voilà, le reste dans l'animation avec notamment Suarez et Messi.
Non, il a fait son meilleur match de son histoire au Barça.
Ouais,
meilleur 13, ce soir que le meilleur match qu'il avait fait de son histoire au Barça, qui était samedi dernier. Il est en progression.
Il a pas un énorme CV au Barça encore. Hein.
Ah oui, donc il commence.
Il a été meilleur ce week-end.
C'est extraordinaire.
Mais franchement,
il a été meilleur ce week-end.
Ah non, ça, attends, excuse-moi, entre jouer à Grenade, dernier de la Liga, qui sont à 10 pendant plus d'une mi-temps.
Grenade, il n'est pas exclu que tu fasses un truc, j'y sais.
Enfin, je veux dire.
Si tu te mets au footing deux semaines avant.
Non, pas Grenade, j'arrête, Malaga.
Tout seul, contre Malaga. C'est pas impossible.
Mais franchement, pour lui, la tension qu'il y avait, la pression qu'il avait sur ce soir, elle était énorme. Et il a été bien. Il a respecté les ordres du coach, il s'est bien replacé, il a fait du travail défensif. Voilà, puis surtout il a paru libéré, beaucoup moins tendu que lors de ses premiers matchs au Barça. Et donc franchement, c'est un match très correct. J'ai pas encore vu l'avis de mes collègues espagnols, mais demain dans les journaux, je suis sûr qu'il aura une bonne note, quoi, parce que il a pas détonné dans le Barça ce soir.
Le premier but, le premier but de sa carrière avec le Barça.
Et tu d'accord, tu demandes des champions c'est décisif, tu demandes des champions contre Chelsea.
Non, mais...
c'est pas mal pour débuter, quoi.
Non, mais attends, je dis pas, son but est très beau, il n'y a pas de souci. Je trouvais juste que Ouais. Hormis son but, hormis le tacle, je suis d'accord avec vous. Non, mais déjà, on l'a pas beaucoup vu et on l'a vu surtout avec beaucoup de déchets.
C'est bizarre cet acharnement sur Dembélé.
Ouais, c'est toujours. C'est tout. Ouais, ouais, il y a un petit acharnement sur Dembélé. Alors moi, je vais
tenter d'acharnement.
Moi, je vais. Pas du tout. Je vous pose la question.
J'anime le débat. Parce que, ce que je veux dire aujourd'hui, quand t'es un jeune joueur, que t'arrives avec le poids du transfert et ceci, cela, que tu t'as une grave blessure, que tu reviens comme ça, qu'on a pris quand même des joueurs entre temps, Coutinho et d'autres. À l'arrivée, ça lui met une pression supplémentaire. Aujourd'hui, il a la chance d'être titulaire contre Chelsea. En huitième de finale, retour de Ligue des Champions. Il faut saisir l'opportunité.
Il doit être décisif.
Il a été décisif.
Mais pourquoi tu dis qu'il est bidon, toi?
Non. Moi, ce qui me plaît dans Dembélé, et moi, je le découvre un peu parce que ça reste un jeune joueur et le très haut niveau, pour l'instant, il l'a pas trop connu, hein. Il commence à faire ses classes. Ce que je veux dire, c'est que tu vois que l'attitude, elle est bonne. Parce que il se met au diapason des autres et il défend beaucoup sur les côtés. On parlait de son rôle défensif qui était important. Quand t'as une équipe qui recule, et ben pour les joueurs de côté offensivement, c'est compliqué aussi d'exister. Et que il y a la relation avec Lionel Messi. Quand je vois la joie de Lionel Messi quand il marque son but, alors même si c'est lui qui lui donne Lionel Messi.
Quel pas en parlant, faut parler du décalage.
Non, mais le
ce
décalage.
Que fait Messi sur ce
mais
but,
la joie, c'est... la joie quand il
double
vient Lionel Messi, il saute dans les bras. Il y a des grands sourires et tout ça. Ça montre quand même une certaine complicité. Et ça, c'est intéressant pour ça, c'est pour
bien.
Dembélé.
Exactement, c'est bien. On remercie Philippe Auclair. Merci beaucoup Fred Hermel.
Je pourrais juste dire une chose, c'est que c'est
oui,
j'ai trouvé ça. Le petit
ça,
absolument superbe ce soir.
Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup, drôle de dame. On se retrouve très vite, évidemment, pour parler de la Ligue des Champions, notamment. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler le moment tant attendu. Restez bien avec nous parce que là, ça va être vraiment absolument incroyable. On va parler de Beşiktaş Bayern, car Jérôme Rotten a vu le match.
Mais vu que vous ne l'avez pas vu, au moins, je saurais quoi dire avec David qui a dû le voir.
Il va tout nous raconter. David Lorto sera là également.
Est-ce que tu te mets de l'huile sur le corps de temps en temps?
Ouais.
Mets de l'huile, un petit homme dans la vie, si tu veux que ça glisse.
Mais
allez,
mettre,
à tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Christophe Drouet.
23h45, c'est la dernière ligne droite de l'afterfoot avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten. Évidemment, on débrief ces derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone qui s'est qualifié 3-0 face à Chelsea. Le FC Barcelone est qualifié. Les Blaugrana qui, comme le FC Séville et le Real Madrid, seront les trois clubs espagnols qualifiés pour ces quarts de finale, avec deux clubs anglais, Manchester City et Liverpool, deux clubs italiens, l'AS Roma hier et la Juventus la semaine dernière, et le club allemand, le Bayern Munich, qui s'est imposé 3-1 face à Beşiktaş, évidemment.
Beşiktaş, bah, on te laisse. Bah, couper les micros, de toute façon, vous n'avez pas vu les matchs. Donc,
on attend évidemment les cymbales, les trompettes.
David est là, non?
David Lorto est avec nous, notre drôle de dame. Salut David.
Hello, Freunde, salut messieurs, salut à tous.
Alors, sache, je ne sais pas si tu nous as écoutés depuis le début, mais sache que Jérôme Rotten a adoré cette rencontre. D'ailleurs, c'était son premier point, Jérôme, de cette soirée. Si on devait résumer la journée de foot qui vient de se passer, c'est peut-être la victoire des Bavarois. Est-ce que tu es d'accord, David?
Non. je suis assez désemparé. J'attends avec impatience parce que j'ai besoin, moi, de qu'on me donne peut-être quelques arguments pour valoriser un peu ce match parce que j'ai trouvé que, et c'est logique après le 5-0 de l'aller à Munich.
Ils ont fait le boulot quand même.
Alors ils ont fait le boulot effectivement, les Bavarois, ils l'ont dit d'ailleurs après le match.
Un peu plus que le boulot quand même.
Ils étaient très concentrés dans les premières minutes et c'était nécessaire parce que évidemment on peut toujours chercher le scénario catastrophe. On prend un but, on prend deux buts puis on est perdu. Ça n'a pas été le cas du tout. Ouais, ben à l'arrivée effectivement il y a 8-1 sur le score des deux matchs, mais non, alors il y a des choses qui ont dérangé un peu les Bavarois. Alors vous allez me dire ils sont peut-être un peu perfectionnistes, mais vous avez quand même trois joueurs qui prennent un carton jaune ce soir. C'est pas des moindres en plus, parce qu'il y a notamment Hummels qui a été sorti avant la fin du match par son entraîneur justement pour le préserver d'une bêtise un peu plus grave. Il y a des joueurs qui sont sous le coup d'une suspension, mais qui pourraient en cas de carton en quart de finale, manquer la demi-finale aller. Donc évidemment, c'est du perfectionnisme, mais on n'est pas pleinement satisfait ce soir à Munich. Évidemment content de s'être imposé et d'avoir offert à Jupp Heynckes ce record inédit de 11 victoires consécutives en Ligue des Champions. Entre sa précédente campagne en 2013 et celle-ci, aucun entraîneur n'a fait cela jusqu'à présent. Donc ça, on est content du côté du Bayern de ça. Mais je vous dis, on a un petit sentiment malgré tout de travail pas parfaitement cousu, pas parfaitement fait, à cause de ces fausses notes, de ces ballons perdus en deuxième période, de ces cartons pris de façon un peu superflue. Et moi, je suis pressé d'entendre Jérôme.
C'est vrai que écoute, le tirage au sort pour les Bavarois, ça a été compliqué. Un deuxième de la poule, le Paris Saint-Germain premier, tirer le Beşiktaş. Vous êtes dur les Allemands quand même.
Je suis en totale contradiction avec ce que vient de dire David.
C'est pratique, c'est le débat.
Parce que tu me dis, ils ont été sérieux.
Oui.
Ils ont pris des cartons, donc ça, ils sont pas contents. Oui. Mais attends, ce que je veux dire, quand tu joues au football dans un contexte comme à Beşiktaş, on connaît ce stade.
Lui, il voulait qu'il y ait encore 5-0.
On connaît ce stade. Alors, ça veut dire que l'erreur, c'était l'entraîneur dans ces cas-là. Parce que s'il veut pas que ses joueurs titulaires prennent des cartons, dans ces cas-là, il les met pas en place.
Oui, c'est vrai qu'il a mis quasiment l'équipe type.
Et voilà, donc s'il a mis l'équipe type, c'était pour que cette équipe gagne là-bas. Et même si c'est un match cacahuète pour certains, parce qu'il y avait 5-0 et la qualif, elle était acquise. Dans le contexte de ce match-là, quand il y a une équipe en face qui met beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme.
Parce que moi j'ai trouvé que ça démarrait le match avec l'idée que en gros que l'exploit était possible.
Je sais pas, je pense, tu sais quoi, ce qui m'a surpris sur les premières minutes, le pressing incessant des joueurs de Beşiktaş, je me suis dit putain, ils font un match ou peut-être qu'ils croient à quelque chose d'impossible.
C'est un match de prestige, en tout cas, un match de Ligue des Champions.
Mais c'est pas ça.
Donc.
C'est que pour avoir joué en Turquie et pour connaître même en Coupe d'Europe et tout, quand tu vois le contexte, le stade qui est plein, le stade qui chante, une ambiance exceptionnelle là-bas à Beşiktaş, forcément,
tout, malgré le 5-0, ça
ils
joue,
veulent
quoi,
respecter parce que c'est la particularité du foot turc à domicile, surtout à domicile, c'est qu'ils veulent respecter les gens qui viennent et qui encouragent. Donc ils sont donnés à fond.
La preuve, c'est qu'ils ont même réduit le score lorsqu'il y avait 0-2.
Oui, et qu'ils sont allés chercher le 2-2. Alors après, ils prennent un contre, ils prennent un troisième but en fin de match du Bayern. Je pense que le 2-2 aurait été correct par rapport à la physionomie du match. Et c'est vrai que le Bayern s'est fait rentrer un peu dans le chou. Mais quand t'es un joueur comme Hummels ou d'autres, où tu prends des tampons, t'as un gros pressing. Mais les mecs, ils veulent mettre du répondant, parce que sinon, t'es étouffé, t'existes plus. Et voilà. Donc, quand tu mets du répondant, bah, il y a des petites fautes bêtes. Tu prends des cartons jaunes, mais ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que je comprends pas que toi, qui as regardé le match, contrairement à Daniel et à JC, que c'est pas un bon match de Ligue des Champions. Un bon match de Ligue des Champions, avec une équipe du Bayern qui a eu des répondants, et sur une mi-temps pour finir, très bon Franck Ribéry et un très bon Müller sur les côtés qui a donné un super ballon de but à Alcantara.
Justement, voilà, on va parler de Ribéry avec David, mais je réponds juste à cette attaque totalement infondée de la part de Jérôme Rotten.
T'as vu le match?
Oui.
Ça m'inquiète alors.
Deux rencontres, deux écrans dans la rédaction. Le match du Paris Saint-Germain.
Parce que quand tu regardes les deux matchs, je vais te dire, moi j'ai l'expérience de faire les matchs.
Mais tu vois rien.
Tu peux pas regarder les deux matchs en même temps. Donc à l'arrivée, tu vois rien.
Ok, on parlera du Paris Saint-Germain.
Et surtout le PSG Angers, à mon avis, t'as pas vu grand-chose. Daniel est mieux placé que moi parce que lui a vu tout le match.
Tu pourras m'interroger dans quelques instants sur le Paris Saint-Germain, on en reparlera. Mais juste, David, tu peux répondre évidemment à Jérôme Rotten et puis nous parler de Franck Ribéry qui était titulaire ce soir.
Bah, je t'en ai parlé déjà.
Non, après, attention.
Oui, mais je voulais avoir le spécialiste.
Moi, je faisais que relayer le fait que l'entraîneur, qui a été assez dur vis-à-vis des petites bêtises de ses joueurs, et les joueurs eux-mêmes ont, alors c'est peut-être le perfectionnisme, c'est peut-être parce qu'ils veulent aller loin dans cette compétition, et je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, qui font que, on a souligné les petits couacs du soir. Mais après, bien évidemment qu'il faut résister. On l'a vu en début de match, un pressing tout terrain, on a vu effectivement le Bayern, jouer, être obligé, être contraint de repartir de sa propre moitié de sa propre surface de réparation pour relancer les actions. Là, ok, il n'y a aucun doute avec ça. Pour ce qui est de Ribéry, c'est bien parce que les prestations de Ribéry depuis que Kingsley Coman est blessé, et on sait qu'il sera blessé au moins jusqu'à la fin de la saison, peut-être même que son mondial est fortement menacé, dans l'esprit des dirigeants bavarois, lorsque Kingsley Coman, donc il joue ailier gauche, s'est blessé, on s'est dit oula, attention, Ribéry sera pas forcément capable de répondre semaine après semaine à une titularisation systématique. On a commencé à penser à des solutions de rechange. James Rodriguez peut-être sur la gauche, Thiago Alcantara placé différemment, une attaque un peu refondée. Or, depuis que donc Coman est blessé, Ribéry est beaucoup plus sollicité statistiquement par rapport au précédent mois dans la saison. Et effectivement, il a répondu présent jusqu'ici. Alors, certes, avec ses cannes de 34 ans, mais pour l'instant, il n'y a rien à lui reprocher.
Hein, pendant au moins 55 minutes, 60 minutes, il a eu vraiment des bonnes jambes.
Il est passeur décisif régulièrement.
Il est à l'origine du premier but, parce que c'est lui qui fait le décalage suite à un bon débordement au départ pour que le ballon arrive sur Müller. Et
on a compris que tu l'avais vu, Jérôme. Hein,
Non, mais pour parler de Ribéry. Ribéry a fait 60 minutes de haut vol.
Merci beaucoup, David. On t'embrasse, drôle de dame. On te revoit très vite.
Évidemment, au quart de finale.
Dans l'after. Yeah. Évidemment, les quarts de finale.
Oui,
on va en parler.
Bonne nouvelle, parce que d'habitude, c'est la première fois. Parce que bon, Coupe de France et Coupe de la Ligue, on a toujours le tirage avant.
Ouais.
Parce qu'on a nos relations. Et là, c'est bon, je viens d'avoir les textos.
Tu as les tirages reçu,
Infantino, qu'est-ce que je raconte?
J'attendais.
Séphérine,
Il vient de m'envoyer
le tirage pour les cartes.
Les qualifiés, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid, la Juventus, Séville, Liverpool et l'AS Roma. Juste avant le tirage au sort, normalement c'est vendredi, mais non, c'est dans l'after, dès le mercredi soir, instants.
On vous a dit, on n'a pas le temps, mais sinon vous aurez donné la liste de Didier Deschamps, hein, on l'a déjà.
C'est vrai, mais on peut rester jusqu'à minuit et demi.
Alors le match du coup de cul,
attends, Daniel, un petit peu de teasing. Parce que j'ai une information à vous donner. Et puis ensuite, vous allez pouvoir donner votre tirage au sort. Andrés Iniesta, le capitaine du FC Barcelone, a laissé entendre à l'issue de la rencontre qu'il réfléchissait à quitter son club formateur pour rejoindre à 33 ans le championnat chinois, disant vouloir prendre une décision avant le 30 avril.
Je donnais le tirage à
Oui, mais est-ce que vous m'avez entendu dans ce que je vous donnais comme information?
Iniesta, bravo.
Iniesta, quoi.
Bravo.
C'est étonnant. Hein.
C'est une décision dont je ferai part d'abord au club et ensuite vous apprendrez ce qu'il en est. Mais avant le 30 avril, je prendrai une décision. Iniesta va bientôt partir en Chine. En tout cas, il y réfléchit. Une réaction?
Qu'est-ce que tu veux dire? Et s'il y va, c'est pour le projet sportif, on a compris, hein.
Non mais il a 33 ans, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il doit rester encore un peu?
Non mais 33 ans,
tout le monde dit que c'est un génie.
Mais le mec il a tout fait, il a tout gagné,
il va prendre 30 millions par an là-bas.
Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas mon information?
Si.
Regardez ce que j'en fais. Voilà. J'ai bien compris. Voilà. Ok. Vous voulez passer au tirage au sort. Voilà.
Mais on l'a, le tirage au sort.
23h55, le tirage au sort de la Ligue des Champions des quarts de finale, c'est dans l'after. On commence avec Daniel Riolo.
Donc le premier match, donc le match des Cutards. Rome-Séville.
Rome-Séville, ok.
T'as le deuxième match.
Mais qui va se qualifier, Rome-Séville?
Ah ben non, ça on sait pas, on sait plus tard ça.
Il y a
un gros match, Real-City.
Real-City.
Ah oui, c'est pas mal, le troisième match.
On a un classique, Juve-Bayern. Voilà. Ça va être, ça fait deux grosses affiches.
Ok.
Et puis bon, ce qui reste, Barça-Liverpool.
Barça-Liverpool. Voilà.
Avec le retour à Barcelone, donc qui est un avantage.
Voilà. Donc ça fait des belles affiches, c'est surtout savoir que Rome et Séville, l'un des deux va être en demi, c'est quand même bien.
Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on vous donne ce tirage au sort. On est très heureux de vous l'annoncer. Voilà. C'est vrai que ils n'ont peut-être pas besoin de se réunir vendredi au siège de l'UEFA.
Ils vont se réunir parce que c'est la tradition.
Ouais,
les boules chaudes, voilà.
Ok. Une dernière question, peut-être une réflexion sur la victoire du Paris. Je t'en parle dans 30 secondes quand c'est la fin de l'émission. Oui, PSG Angers 2-1, match avancé de la 31e journée, exclusion de Thiago Motta, doublé de Kylian Mbappé. On retient quoi?
Je me suis dit en regardant le match, peut-être que la Ligue devrait faire en sorte que le PSG joue tous les matchs à 10, ça durcirait un petit peu la tâche des Parisiens.
Et le mercredi.
Voir qu'à 10, bon, sur la fin, ils ont eu quelques petites difficultés et Angers a même eu une occasion pour faire le 2-2. Mais jouer à 11 contre 10 aussi vite dans le match, je me suis dit Angers va quand même essayer un peu plus, ils vont quand même vraiment aller au contact. J'imagine qu'ils sont arrivés avec l'idée qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire dans cette partie. t'as une opportunité énorme, bah, peut-être pas de gagner, mais au moins de prendre un point dans leur situation. Et non, j'ai entendu Dugas aujourd'hui être assez dur avec Angers, sans aller à 100% avec lui, mais à 90, j'ai dit, putain, quand même, il a essayé un peu plus, quoi. Ils ne sont que 10, quoi. Bah,
surtout
10,
que,
non, merci.
Non, non, mais surtout que s'ils avaient continué à attaquer sur le côté gauche de la défense parisienne, comme à l'image du but d'Angers, je pense qu'ils auraient peut-être gagné 3-2.
Je tiens à souligner quand même que ton acharnement en a pris un coup ce soir. C'est lamentable tout ce que tu as dit sur Corzava, alors qu'il a fait une passe décisive.
Selon nos informations, Wissam Ben Yedder pourrait être en équipe de France. C'est une piste étudiée par le staff des Bleus.
Non, non, mais je te rassure, il y est.
Ok.
Donc voilà, ça aura confirmation. Didier donnera confirmation à 13h, à 14h demain.
On en parlera évidemment de cette liste demain et une grande soirée européenne. Cette liste des 23, nous en parlons demain dans l'after, dans le Super Football Show également, à partir de 20h. Et puis oui, parfois, pardonnez-moi, je mets parfois les lunettes, non, je dis ça pour les téléspectateurs qui regardent.
Franchement, bravo
que j'ai pas
pour ce que
chien.
Tu fais, parce que c'est génial.
Oui, et bravo pour Beşiktaş Bayern, évidemment. demain, une grande soirée Ligue Europa avec Lyon. Et Marseille, on vous embrasse. Passez une très très belle soirée. C'était l'After. On adore et on vous adore. Salut.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.